Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous. Passage à niveau, ce dimanche 25 janvier. Voilà le menu. Et on revient aux élections municipales en France le 15 et 22 mars. Dans les studios, on a un ancien député, Madame Divaldoise, candidat à la mairie de Soisy sous Montmorency, avec la liste Vivre Soisy. Il s'agit de David Corsero. On parlera également dans le livre Les Portugais en France et l'immigration invisible, point d'interrogation, 20e et 21e siècle. Puis publié par le Cavalier Bleu édition. Après, on parlera de l'hommage qui va avoir lieu le samedi 31 janvier à Paris de la part de la mairie de la capitale à l'ancien président de la République, Mario Soares. Une plaque dans l'immeuble où il a vécu entre 1970 et 1974 et également un jardin dans le 20e arrondissement va avoir son nom. Après, on parlera du résultat des élections, des premiers tours des élections présidentielles au Portugal, où l'extrême droite raciste et xénophobe accède justement à ce deuxième tour. On aura un journaliste et commentateur à la RTP, Miguel Szymanski, qui va nous donner son analyse. Et pour terminer, théâtre musical Soldats d'ici et là-bas, ni plus ni moins, qui va être représenté au théâtre Gérard Philippe à Champigny-sur-Marne. Monsieur Corsero, avant tout, bonjour et merci d'être avec nous dans les studios.
Merci d'avoir invité.
Bon alors, ça n'a pas été trop galère de venir au 95 jusqu'ici?
Non, parce qu'on est dimanche, ça va. En semaine, j'aurais jamais réussi à être à l'heure, en tout cas.
D'accord, mais question des transports, on va parler justement de l'enclavement. Il y a des zones, il vaut mieux pas habiter en banlieue, et après on nous interdit, vous n'utilisez pas la voiture. Mais enfin, alors, monsieur Corsero, ancien député,
oui,
puisque vous avez siégé à l'Assemblée nationale dans le groupe Modem, je crois.
Exactement. Mmh.
Alors, c'est la troisième tentative pour la mairie de Soisy, sous le moment aussi de département 95. La première fois, sauf erreur de ma part, c'était en 2012, vous avez été candidat sur une liste socialiste. Ça.
Exactement, j'étais colistier d'une tête de liste socialiste.
Alors, plus tard, aux dernières élections, 2020, candidat, en votre propre nom, battu.
Exactement, mais dans la vie, c'est les échecs qui permettent d'avoir des réussites. Donc, quand on échoue, c'est là où on peut se relever et pouvoir réussir. Et je compte bien gagner en 2026.
Alors, justement, vivre Soisy. Peut-être, pour nos auditeurs, faire un petit portrait de Soisy sous Montmorency.
Bah, écoutez, vivre Soisy, c'est une liste d'habitants de Soisy qui ont un seul parti, c'est Soisy. L'idée, elle est très simple. C'est qu'aujourd'hui, on a une gouvernance qui est là depuis 30 ans. Donc, un maire qui est là depuis 1995 quasiment, et l'idée c'est d'améliorer les choses avec les habitants en ayant plus de concertation, en ayant plus de débats et surtout plus d'écoute des habitants, parce que c'est un peu le gros souci de notre ville. Donc Vivre Soisy, c'est des gens qui sont engagés pour faire bouger des lignes et améliorer les choses pour les Soiséens, mais sans parti politique.
Le local d'abord alors.
Le local d'abord, oui. Ah, moi, j'ai toujours été clair dans mon engagement. La preuve, j'étais pas candidat à ma réélection en tant que député. Donc, j'ai toujours dit que c'est moi ce qui m'intéressait, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait plaisir, ce qui me donne du plaisir tout le temps, c'est le local, parce que c'est la vraie vie tous les jours. Et la vraie vie, c'est ce qui permet d'être bien dans ses baskets, être dans des dorures. C'est pas du tout ma philosophie.
Alors, cette fois-ci, vous présentez sans étiquette. Oui. Mais c'est pas une liste antipartidaire, quand même.
Non, c'est parce que 95% des gens qui sont sur la liste ne sont pas adhérents dans un parti politique.
Attendez, vous avez quelqu'un qui est conseiller municipal de l'opposition, qui est écologiste.
Oui, mais elle ne sera pas sur la liste. Elle nous soutient. Elle nous a dit qu'elle serait, qu'elle nous soutenait, mais elle ne sera pas sur la liste.
Ah d'accord. Bon, c'était pas les infos que j'avais.
Oui, elle ne sera pas sur la liste. Voilà.
Alors, mais justement pour préparer cette liste, de trouver des colistiers, etc. Comment vous avez procédé?
Ben vous savez, quand on a la malchance d'avoir perdu en 2020, on a 6 ans pour préparer les prochaines échéances. Mmh. Et donc, il y a des candidats qui vont vous dire que eux, ils ont fait des sondages, des questionnaires 6 mois avant les élections. Nous, ça fait 6 ans qu'on écoute les Soiséens et les Soiséennes, qu'on les rencontre, qu'on va à leur rencontre. Pendant 6 ans, on a rencontré beaucoup d'habitants, beaucoup de monde, et c'est comme ça qu'on a construit notre liste, et c'est pour ça que dès que la préfecture le permettra, on pourra déposer notre liste. Nous, on est complet, on n'a aucune difficulté, on a une liste qui est déjà prête, déjà depuis quasiment 6 mois.
Ça, il faut attendre, sauf erreur de ma part,
le début février.
Début février.
Voilà.
Alors, justement, vous avez parlé, le maire actuel, ça fait longtemps qu'il est là. Donc, ça veut dire, pour vous, le fait qu'il soit là depuis longtemps, ça fait que Soisy traîne, Soisy n'avance pas, ou que... Quelles sont les critiques? C'est pas de critiques que vous faites à la majorité actuelle à la mairie.
Moi, je fais pas de critiques, je fais des constats. C'est pas la même chose. Aujourd'hui, si on regarde les villes qui sont à côté de chez nous, elles se sont réinventées. Nous, on est devenu une ville de transit où les gens passent chez nous, ne s'arrêtent plus. On a une perte de commerçants, c'est-à-dire qu'on a des locaux qui sont vides. C'est pas acceptable pour une ville comme Soisy ou Montmorency. On a des problèmes de circulation. Et là où c'est plutôt drôle, c'est que les personnes qui sont là depuis 30 ans nous expliquent que il faut changer les choses. Mais pendant 30 ans, ils avaient toutes les cartes pour changer les choses. Pourquoi ils l'ont pas fait? La situation dans laquelle on est dans cette ville, c'est des sens interdits qui sont mis au jour le jour, comme ça, du jour au lendemain, sans aucune consultation citoyenne, et qui permettent plus aux gens de circuler librement. Et donc, c'est tous ces petits faits qui fait qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un dialogue, on est avec une équipe municipale et un maire qui décident tout seul dans un bureau où il n'y a plus d'écoute avec les Soisiens. Et c'est là où ça, c'est plus possible.
Vous avez parlé des centres-villes, des commerces qui ferment. Alors, on sait très bien que dans les petites villes, en moyenne, les centres-villes sont en train de mourir. Autour de Soisy, vous avez énormément de centres commerciaux. Je ne vais pas parler de donner des noms d'enseignes. Donc, ça veut dire, mais comment, concrètement là, on rentre dans vos propositions, et comment revitaliser, c'est le cas de le dire, le centre-ville, garder ses habitants et garder ses commerces, dits de bouche, entre autres, hein, mais il y en a plein.
Alors, vous savez, il y a une politique qui s'appelle, quand il y a un commerce qui ferme, il faut automatiquement que la ville se porte acquéreur des murs pour pouvoir plus facilement installer quelque chose. Ça, c'est quelque chose que le maire a bien fait. Mmh. Je vais être très honnête, c'est très bien fait. La difficulté, c'est que on a acheté, pour ceux qui connaissent Soisy, dans une rue, un ancien fleuriste. On a acheté une ancienne boucherie, une ancienne mercerie. Sauf que depuis 5 ans, on n'a rien fait.
Les locaux sont vides.
Les locaux sont vides et on n'en a rien fait. C'est-à-dire qu'on paye du foncier. C'est-à-dire que les habitants payent, ils ont acheté le foncier, c'est-à-dire qu'ils ont acheté les murs, ils ont acheté la terre pour pouvoir faire. Sauf que nous, de la municipalité, elle n'a rien fait depuis. C'est vide. Alors bien sûr qu'il faut démolir, reconstruire, mais on ne nous a même pas présenté un projet. Aujourd'hui, il n'y a rien. Sauf que les perdants, ce sont les Soisiens, puisque on sait très bien que plus on a de commerces vides, et moins ça attire de monde. Quand vous passez dans une ville et que tout est fermé, ça donne pas du tout envie de s'arrêter. Et ben c'est un peu ça. Nous on prend l'engagement, et ça c'est un engagement municipal, que si on gagne en mars prochain, que aucun commerce ne sera vide à la fin du mandat appartenant à la ville. Ceux qui n'appartiennent pas à la ville, c'est compliqué de pouvoir faire quelque chose. Mais tous ceux qui appartiennent à la ville, on prend l'engagement que aucun ne doit être vide au moment des élections prochaines.
Alors, centre-ville, quand on parle d'une ville, il y a ses habitants.
Oui.
Aujourd'hui, est-ce que Soisy, c'est une ville dortoir, de cette façon, les gens qui vivent et dorment à Soisy, mais travaillent ailleurs, malheureusement, c'est le problème de la banlieue. Mais comment, finalement, les habitants, il y a des problèmes concrets, il y a des familles qui ont des enfants. Les crèches, quelle est la situation?
Écoutez, les crèches, c'est très simple. Aujourd'hui, on a une crèche, on va devoir en construire une autre. Parce que aujourd'hui, elle est plus aux normes. Donc, ça coûte trop cher de la remettre aux normes. Donc, on est obligé d'en construire une autre. Quel bon père de famille, aujourd'hui, ferait ça dans sa propre maison? Quel bon père de famille laisserait son habitation tomber en lambeaux pour être obligé d'en construire une autre? Personne. Eh ben, c'est la situation que nous, on a. Et donc, nous, on prend l'engagement, dans le nouveau centre-ville, dès la fin de 2026, de pouvoir présenter aux Soiséens un projet qui sera construit avant la fin du mandat pour qu'on puisse avoir plus de crèches. Alors, ce que des crèches privées, ça, on sait faire, hein, y a aucun problème. Mais des places de crèches pour les habitants avec des tarifs social, c'est un peu plus compliqué. Donc nous, on prend l'engagement de reconstruire le même nombre de berceaux, mais surtout de pouvoir proposer un projet dans l'ancienne crèche par un privé.
Oui, parce que le problème, c'est qu'avant même que l'enfant soit conçu, on l'inscrit déjà pour avoir une place à la crèche. Alors, justement, de tarifs sociaux, Apparemment, il y a un gros problème au niveau des cantines, parce que c'est 6 euros.
6,30 €, c'est le tarif de la cantine chez nous.
Donc, on ne tient pas compte du coefficient.
Le coefficient familial n'existe pas. On va vous dire que quand vous avez des difficultés financières, il faut venir à la mairie et on vous fait un geste. Mais moi, je trouve ça humiliant.
Donc, déjà, il faut les quémander.
Exactement. Moi, je trouve ça humiliant pour les habitants. Je trouve ça humiliant pour les amis, pour les familles et surtout pour ceux qui connaissent l'emplacement de la mairie. C'est un grand comptoir. Tout le monde écoute, tout le monde se parle. Il n'y a pas de...
Privacité.
Oui, et c'est un peu ça la difficulté. Donc nous, on est vraiment pour la mise en place du coefficient familial à partir de la rentrée de septembre 2026. Et on veut surtout supprimer quelque chose. On est la seule ville de France. On paye 16 € de droits d'inscription pour inscrire ses enfants à l'école publique. Bah ouais, c'est comme ça. Ça existe chez nous. Donc nous, on veut les supprimer parce que on trouve ça logique que automatiquement les personnes qui travaillent pour la mairie sont déjà payées grâce à nos impôts. Ils font un très bon travail. On le renie pas. Mais pourquoi faire payer en plus les familles 16 € juste pour faire un travail qui est déjà payé par l'impôt?
Oui, d'autant plus que l'enseignement est gratuit en France.
Exactement.
Moi, c'est ça qui est inscrit sur la Constitution. Alors, habitants, crèche. Problème. Apparemment, il n'y a qu'une seule crèche. Il faut la renouveler. Il faut la complètement la refaire. Avec tout ce que ça suppose, ça veut dire que pendant X temps, il n'y aura pas de crèche.
La crèche, automatiquement, on ne peut pas la fermer. Donc, elle va continuer à vivre, même si on sait qu'on n'est pas aux normes. Mais c'est pour ça que ça devient une urgence. C'est ce que j'explique depuis le début. Un père de famille n'aurait pas laissé être dans cette urgence-là, aurait pris des solutions avant. Nous, on est dans une urgence, donc il faut aller vite.
Alors, qui dit habitants, dit logement. Quelle est la situation par rapport aux logements sociaux? Quel taux logement sociaux?
On est vraiment dans les 25% que la loi nous impose. Alors après, c'est la difficulté, on sait très bien, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez un terrain et que vous voulez le vendre, automatiquement, il y a ceux qui découpent leur terrain, il y a ceux qui construisent. Donc, il faut vraiment qu'on surveille ce sujet-là parce que...
Il y a un problème de foncier à Soisy.
Il y a un problème où aujourd'hui, comme tout le monde et comme dans toutes les villes, aujourd'hui, dès qu'il y a un terrain, on construit. Mais il faut pouvoir.
Si c'est un particulier.
Si ça appartient à la ville, automatiquement, il y a un moment donné, il faut qu'on puisse en faire quelque chose. Donc, on va construire parce que la difficulté, c'est que ce pourcentage, en fonction de ce qui se passe dans la ville, il évolue tout le temps. Donc, on est toujours obligé de construire. Donc, il faut toujours construire. Mais nous, notre volonté, c'est de faire vraiment, de limiter un maximum les constructions. Et d'avoir un ensemble qui soit à peu près cohérent avec beaucoup plus de végétation que ce qu'on peut avoir, mais surtout on veut pas dépasser les 2-3 étages maximum parce que c'est pas du tout notre philosophie. On a déjà eu des grands complexes comme ce qu'on pourrait avoir. Aujourd'hui, il y a un vrai projet sur celui du centre-ville. Nous, on est vraiment on veut même limiter à maximum 100 logements parce que comme on est une problématique de trafic de voitures, on sait très bien que quand on rajoute du logement, on rajoute beaucoup de voitures.
Mais ces logements, il y aura des logements type HLM avec des loyers modérés et même pour le sang. Parce que quelqu'un, par exemple, il y a des familles, travaillent tous les deux, sont pauvres. Et même avec leur salaire, ils essaient de louer une maison, ils n'arrivent pas avec des enfants. Ils peuvent pas. Donc, comment est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il y a des problèmes sociaux qui se posent.
Alors, ça, c'est une question importante. Pour nous, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir du mix social. Du propriétaire et du social dans les mêmes résidences. C'est ce qui se fait de plus en plus. Après, il faut juste que ce soit raisonnable pour les propriétaires. Il ne faut pas qu'on ait... Parce que, quoi qu'il arrive, quand vous avez un immeuble et que vous êtes propriétaire, vous pouvez le mettre en location. Donc, vous vous retrouvez avec une autre difficulté. Mais, de notre volonté...
Il y a des garanties. Les propriétaires ont des garanties.
Exactement. Il y en a plein, des garanties. Mais... On veut vraiment faire en sorte que avoir une mixité propriétaire et sociale dans une même résidence, mais surtout limitée en nombre d'habitants. On veut pas exploser. Il faut qu'on arrive à rester dans ces 25%, 26% maximum, parce qu'on sait que la situation de la ville, ça bouge. Mais vraiment, on veut rester dans ce que la loi nous impose.
Donc, ça veut dire que on a des enfants, ils grandissent, eux-mêmes se marient, ont des enfants. Et on voudrait bien rester là où on est, on est né. Donc il y a d'autres les nouvelles générations qui puissent rester là où ils sont nés.
Alors nous on n'a pas forcément cette difficulté parce qu'on était une ville plutôt vieillissante. C'est-à-dire que vous aviez un pavillon avec une personne âgée ou deux, malheureusement un des deux décède et donc automatiquement la personne pour une question de revenus, pour une question d'entretien, elle peut pas forcément rester. Donc on a quand même sur le marché
un renouvellement de
Des générations, et surtout c'est souvent des gens qui habitaient Soisy et qui ont cherché une maison et qui peuvent accéder à la propriété comme ça, et des personnes âgées qui repartent en appartement ou qui partent dans une maison de retraite, parce qu'à Soisy on a quand même 3 maisons de retraite
privées.
Privé, oui, oui, bien sûr, privé.
Bon, je ne vais pas parler des scandales qu'il y a eu récemment. Laissons ça. Alors, banlieue. Moi, j'habite en banlieue. J'ai un problème énorme de transport, hein, parce que si j'ai fini tard, ou si je commence très tôt, pas de transport. Et apparemment, le Vaudoise, c'est un département sinistré par rapport à ça. Qu'est-ce qu'un maire peut faire, parce qu'il est limité, c'est pas lui qui dirige ça, il y a le département, il y a la région, etc., etc. Bon, comment est-ce que vous voyez, quelle proposition, qu'est-ce que vous pouvez faire, quel pouvoir vous avez, ça concerne les transports?
Alors, le pouvoir du maire, il est limité, parce que la compétence des transports, c'est pas la compétence du maire, c'est la région et Île-de-France Mobilité. Ça, c'est un point important. Mais, aujourd'hui, si on fait un comparatif, il y a plus de lignes de métro dans le 93 que dans le Val d'Oise. C'est pas compliqué, hein.
Nous, ils en ont besoin aussi, c'est pas la question.
Ah, mais je fais juste un constat que les élus du 93 se sont plus battus que ceux du Val d'Oise. Sauf que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a un trafic routier avec la 15 qui progresse. Quand vous voulez traverser pour aller à Sarcelles, aujourd'hui, on vous fait passer par Soisy ce moment aussi. On vous fait plus passer par la Nationale 1, puisque c'est sans arrêt engorgé. Donc, on a cette difficulté. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le département et la région accompagnés des maires, on doit pousser pour que on a le Grand Paris qui arrive. On a des lignes de métro qui vont être à Argenteuil, qui vont pas être très loin. Il faut continuer à pousser pour que ces lignes-là, elles remontent sur le Val d'Oise jusqu'à Beauchamp. Elles pourraient très bien passer par Beauchamp, par Cormeilles en Parisie, par Soisy, parce qu'on en a besoin. Et c'est la seule manière de pouvoir avoir un trafic routier qui peut diminuer si on offre la possibilité aux gens du Val d'Oise d'avoir des accès beaucoup plus rapides sur Paris.
Oui, parce que la 15, à partir de 6h en quart du matin, dans le sens province Paris, c'est infernal. Hein.
Oui,
et dans l'autre sens, à partir de 16h, bon, c'est également le même topo.
Et s'il n'y a pas d'accident? Si vous avez un accident, c'est une catastrophe.
Alors, justement, par rapport au transport, parce que quelles sont les lignes que dessert actuellement Soisy ce moment?
La ligne H. Voilà, on a à la gare de Chantecourt, c'est la seule ligne. Après, vous avez Enghien-les-Bains juste avant, donc vous avez la possibilité de choisir entre les deux. Après, si vous...
Il y a des bus après qui font le...
Oui, il y a des bus. Il y a un système de bus, c'est très bien. Alors, mais la difficulté, c'est que vous le savez aussi bien ceux qui nous écoutent, c'est que le week-end, par exemple, avec tous les travaux, vous avez beaucoup de suppressions de trains ou quelquefois après 21h, 22h, il y a plus de train. Donc, vous êtes coincé et vous retrouvez à une station, voire prendre un bus pour essayer de rentrer ou à payer un Uber, tout simplement. Moi, je trouve ça dommage aussi qu'on n'ait pas un système, comme on peut l'avoir à Paris, de vélos qui sont en libre service. Alors après, il faut aimer faire le vélo.
Il faut pouvoir le faire.
Mais aujourd'hui, quand on est jeune valdoisien et qu'on sort, si on veut pouvoir avoir des moyens de rentrer des fois le soir, c'est quand même pratique d'avoir des vélos qui soient mis à disposition aux abords des gares et après qu'on puisse les déposer en centre-ville. Bon, on n'habite pas forcément tous au centre-ville, mais c'est un moyen d'accéder plus facilement. Mais ça, c'est pas proposé non plus.
Je vous signale qu'il y a plus de suppression de train. Il y a des retards, et parce que par manque de personnel, ça s'affiche, par manque de personnel, le train en tel, etc.
Moi, s'il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de train, donc c'est une suppression de train.
Oui, non, mais enfin, de toute façon, quand on fait le décompte annuel au niveau de la SNCF, bon, il y a très peu de trains qui ont été supprimés. Il y a toujours une raison. Qu'est-ce que je veux dire? Justement, par rapport à ces questions-là de transport, ça, c'est Île-de-France Mobilité, donc la région, au niveau des bus. Quelle est la situation à Soisy? Parce qu'on sait très bien que le réseau RATP est en train d'être vendu.
C'est pas la RATP, c'est Transdev.
Transdev, c'est une filiale.
Voilà, exactement.
De la SNCF.
Bon. Honnêtement,
il y a pas de bus fantôme.
Honnêtement, moi je trouve que ça s'est amélioré par rapport à ce qu'on avait avant. Moi je pense que c'est la situation. Après, la difficulté, c'est toujours pareil. Comme on a un trafic routier fort, des fois vous allez plus vite à pied que dans le bus. Parce qu'il y a tellement de bouchons que ça n'avance pas. Donc c'est pour ça que la difficulté, c'est pas forcément l'accessibilité aux bus qui sont présents, hein, aux heures de pointe, il n'y a pas de difficulté. La difficulté, c'est un peu plus le week-end. Et et quand c'est pas le trafic, quand c'est pas les heures de pointe. Quand vous voulez à midi à la gare, vous avez moins de chances d'avoir un bus qu'à 7h, 8h du matin.
Alors, vous avez siégé à l'Assemblée nationale, député Modem, puisque vous avez pris, parce que vous étiez
le suppléant.
De
Nathalie Elimas.
Voilà, ben merci de m'avoir rappelé. Justement, alors, mais quel regard vous avez sur la situation politique actuelle? Vous avez siégé à l'Assemblée nationale. Puisque en mer, bon, il y a bien beau, il a un certain nombre de propositions, mais il faut faire un budget. Sur quelle base? Comment est-ce que vous voyez, vous êtes élu maire, très bien, mais quel budget, sur quelle base vous allez travailler? Qu'est-ce que vous en pensez de la situation actuelle en France?
Déjà, il y a deux points importants. Là, je peux rejoindre tous les maires qui sont en poste, c'est que toutes les collectivités doivent présenter un budget à l'équilibre. Ce qui n'est pas le rôle de l'État. Non, mais ça, c'est aussi un point important. Après, c'est toujours comme ça que c'est un peu compliqué, c'est qu'aujourd'hui, les collectivités vivent parce qu'elles ont des dotations d'État. Et ça, c'est aussi
ça fait des années qu'on est en train de les réduire.
Oui, c'est normal, parce que automatiquement, personne ne veut faire en sorte de payer plus d'impôts. Donc l'État doit travailler d'abord sur sa diminution à lui-même de son coût de fonctionnement. Ça, c'est vraiment important et c'est aussi ce que les collectivités doivent faire.
Couper où? Je m'en pardonne.
Frais de fonctionnement, je vous donne un exemple. Chez nous, à Soisy-sous-Montmorency, pour ceux qui me connaissent, moi, je suis un fou du gaspillage d'argent public. On éclaire des écoles vides toute la nuit. Voilà. Moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on gaspille là. Après, on peut me dire que ça serait que c'est du LED ou pas du LED. Je comprends pas. On a des parcs qui sont éclairés toute la nuit.
On va vous dire, c'est une question de sécurité.
Ah bah très bien, mais qu'on met des détecteurs de présence, et directement, s'il y a quelqu'un ou s'il y a un animal qui passe, ça va s'allumer. Mais pourquoi éclairer toute la nuit? On a des parkings d'école éclairés toute la nuit. Mais moi, je ne comprends pas. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Et moi, je pense que il faut un renouvellement de la classe politique parce que on a des nouvelles manières de fonctionner. Et des élus qui sont là depuis des années, et ben pour eux, ça leur passe totalement au-dessus du front, parce que ça fait des années que c'est comme ça. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut travailler tout ce qui peut faire baisser les frais de fonctionnement, que ce soit à l'État et aux collectivités. Je vous donne un autre exemple. Oui. En Ile-de-France, il pleut. Mais chez nous, on va piller les nappes phréatiques pour arroser les espaces verts, alors qu'on pourrait installer des ballons de récupération dans tous les bâtiments communaux, et on pourrait arroser gratuitement. Il y a plein de petites solutions comme ça qui existent. Et ça, c'est ce qu'on appelle baisser les frais de fonctionnement. Mais pour ça, il faut se remettre en cause et réfléchir à comment on peut faire autrement. Quand on est sur un système qui roule depuis des années, on pense plus comme ça. On laisse la roue rouler. Et ça, c'est la grosse faiblesse des politiques aujourd'hui. Et de l'État, hein.
Alors, ça fait déjà plusieurs premiers ministres, sauf avec M. Lecornu. Bon, je n'ai pas encore entendu dire ça. On a un déficit énorme, déficit de la France, et la faute, c'est aux collectivités territoriales. Et du coup, des milliards, des milliards des économies, mes amis, débrouillez-vous comme vous voulez. Alors, quand on voit la précarité qu'il y a en France, le nombre de gens qui touchent le RSA... Mais il y en a beaucoup d'autres qui auraient le droit, mais qui ne les touchent pas. Donc, il y a davantage, les collectivités territoriales ont davantage de dépenses imposées par l'État. La dotation ne suit pas. Bon, quand même, il y a quelque chose qui tourne pas rond, non?
Alors, il y a un point important, et la difficulté, c'est que le travail aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de vivre avec le salaire qu'on a. Donc, c'est que le travail ne rapporte plus.
Il y a des couples qui travaillent qui sont pauvres.
Oui, mais c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, même si vous avez un salaire de 2000 euros, 4000 euros, ça ne suffit plus pour pouvoir payer toutes les factures. Et donc, ça, c'est un point important. On a, après, dans les collectivités, et c'est pour ça que moi, je vais toujours prôner, aujourd'hui, on a des échelons, les Français n'y comprennent absolument rien, entre qui gère la compétence de quoi. Vous prenez le social, c'est le département. Le transport, c'est la région. Vous prenez les poubelles, c'est l'agglomération.
Mais les crèches et l'enseignement élémentaire,
c'est la commune. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, moi je l'ai toujours dit et j'ai pas honte de le dire, il faut supprimer un échelon, le département ou la région. J'ai pas réfléchi, mais je pense qu'il y en a un qui est trop, et ça permettrait déjà comme on disait à l'époque, dégraisser le mammouth. déjà, de faire des économies et surtout d'avoir une meilleure répartition. Parce que personne ne comprend, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, bah, c'est un jeu de dupes et on se renvoie les balles. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait faire mieux, mais pour ça, il faut avoir du courage politique.
Donc, bonjour le millefeuille.
Exactement. Mais ça, c'est le vrai problème français. Hein.
Alors, monsieur David Corsero, David Corsero, je le dis en portugais exprès. Vous êtes d'origine portugaise, peut-être c'est des origines de vos parents, vos grands-parents, comment est-ce?
Alors, moi, mon père, effectivement, est le dernier de la génération à être né au Portugal. Mes grands-parents sont venus en France directement. Et vous savez, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'admiratif parce que j'ai eu des grands-parents qui ont eu qu'une seule chose, c'est de s'intégrer en France et de travailler. Travailler, c'était la valeur la plus importante.
Ben oui, parce qu'il fallait survivre. Parce
oui, mais justement.
Vu la misère qu'il y avait au Portugal.
Oui, mais justement, ils ont travaillé, ils ont transmis cette valeur travail. Chez nous, quand je parle de gaspillage d'argent, je peux vous garantir que moi, j'ai jamais vu mes grands-parents gaspiller le moindre franc ou le moindre euro parce que on respecte l'argent qu'on gagne et on le dépense le mieux possible. Et ça, c'est quelque chose qui nous a été transmis dans notre famille. C'est une valeur très importante. Et donc, c'est aussi lié à notre histoire, tout simplement. Parce que quand mes grands-parents sont arrivés en France, eh ben, moi, j'ai pas honte de le dire, ils vivaient dans les bidonvilles. Et c'est comme ça que, par l'ascenseur social du travail, qu'ils ont réussi à acheter une première maison à Saint-Denis et qu'ils ont monté tous les échelons.
Voilà, ils sont passés par les bidonvilles, probablement sont venus clandestinement en France. Alors, je vais vous demander de regarder un petit peu de l'autre côté, justement, du côté des Portugal. Avec tout ce qui est en train de se passer, qu'on est en train de stigmatiser, les travailleurs étrangers qui sont au Portugal, qui travaillent, tel que nous, quand on était révisés dans les années 50 et 60, etc., vous, comme élu, bon, je pense que vous êtes sensibilité de gauche quand même, et comment est-ce que vous voyez le fait qu'un pays d'émigration puisse avoir tout un racisme par rapport à l'immigration?
Mais aujourd'hui, la difficulté, c'est que si je prends tous ceux qui sont venus en France, ils se sont 100% intégrés.
Intégrés,
c'est-à-dire qu'ils ont appris la langue.
Ils se sont fait tout petits.
Mais pas tout petits, ils ont travaillé et ils se sont intégrés dans la vie française. Aujourd'hui, on a tous ceux qui sont montrés du doigt qui viennent, mais sauf que je rappelle qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun Français qui veut travailler en restauration derrière. Je rappelle que aujourd'hui, ceux qui ramassent nos poubelles, c'est essentiellement des gens
qui s'occupent de nos aînés.
Oui, mais justement, c'est ça la difficulté, c'est qu'on peut pas montrer tout le monde du doigt. Je pense que c'est toujours pareil. Dans chaque partie de nous, il y a du bon et du mauvais. Et donc, on ne montre que le mauvais. Sauf que, aujourd'hui, je rappelle qu'il y a plein de sous-métiers que personne ne veut faire. Comment on fait? On l'a bien vu dans la crise des Gilets jaunes. Dans la crise des Gilets jaunes, on l'a bien vu. Il y avait des moments où plus rien ne pouvait tourner parce qu'il n'y avait plus personne pour le faire.
Justement, les gens d'en bas, et c'est des gens pendant le confinement, dans la période de la Covid, qui s'y faisaient tourner l'économie. Donc vous êtes d'origine portugaise, mais vous ne parlez pas le portugais.
Non, et non, c'est mon grand désespoir parce que ma mère est italienne et donc à la maison, il fallait apprendre les deux langues. Et donc, je n'ai appris aucune parce que j'ai appris le français. Et donc, automatiquement, il y avait une petite guéguerre entre mes parents entre mon père et ma mère. Donc, je n'ai appris ni l'une ni l'autre. Et c'est mes grands regrets de la vie.
Toute dernière question de réponse. J'essaye. C'est par rapport à l'enseignement de la langue portugaise. Parce que là, vraiment, il est devenu une langue rare. Alors, le portugais, c'est pas une langue maternelle, c'est plus que ça, c'est une langue aussi. C'est un atout professionnel parce que, il y a
dans le monde
250
dans lequel
millions de personnes.
Voilà. Parler une langue, c'est vraiment
un atout. Qu'est-ce que vous en pensez du fait que le portugais soit considéré une langue rare en France?
Moi, je vous donne en exclusivité, dans notre projet municipal, nous, on veut créer une maison de la jeunesse et de la langue. C'est-à-dire que dans cette maison, on aura des cours par des professeurs de portugais, d'anglais et d'allemand, ou d'autres langues en fonction de ce qu'on peut avoir entre les professeurs. Parce que pour nous, c'est essentiel de se dire que dans une ville, on doit pouvoir offrir à tous nos jeunes des moyens de réussir. Et aujourd'hui, ne pas parler une langue comme moi, c'est un vrai handicap. Et je m'en aperçois au quotidien.
David Corsero, je vous remercie d'être venu, de vous être déplacé du 95.
C'est un plaisir.
Il n'y a pas beaucoup d'embouteillages. Alors, pour donner une suite par rapport à ce que vous avez parlé, que l'immigration portugaise est intégrée ou pas, c'est, on va parler maintenant, diffuser une interview sur un livre, Les Portugais en France, une immigration invisible, 20e et 21e siècle. Ça a été publié par le Cavalier Bleu Édition. On va écouter l'interview qu'on a réalisée avec Sonia Fred, anthropologue et co-coordinatrice de cette publication. Alors, ce qu'on a pu constater, et ça, c'est Sonia Fred qui nous va nous répondre, c'est que finalement, il y a tout un tas d'études qui ont été faites, mais on a du mal, bon, il y a jamais une publication qui donne un point de vue d'ensemble. Donc, ça vous aiderait à vous, cette publication, pour vous aider aussi à comprendre vos origines.
Ah bah oui, très bien. Il faudra peut-être que je puisse le lire, alors.
Voilà. Alors, c'est parti. On va écouter Sonia Fred. Merci.
Sim, esse foi, aliás, o motivo que nos levou a pensar esta obra. Ela nasce de um encontro anterior no quadro universitário, num grupo de pesquisa que eu e a minha colega Irene dos Santos coordenamos, que já tinha precisamente este título da imigração portuguesa em França, exatamente como colocamos aqui, o Pensée, les Pensées. E a ideia era precisamente tentar trazer para o diálogo, até com outros colegas que estudam, outros grupos migrantes, discutir um bocadinho porque é que as ciências sociais em França parecem interessar-se tão pouco pela migração portuguesa. E foi então no quadro dessa discussão que pensámos que seria interessante fazer uma obra de síntese, porque de facto havia alguns números de revistas especializados, havia, enfim, obviamente todas as publicações têm sido feitas a título individual, mas pareceu-nos que seria interessante, importante mesmo, fazer uma obra que fosse uma obra de síntese, que talvez permitisse abrir as portas a uma discussão mais vasta, não só no seio da academia, da universidade, mas também fora dela.
Alfredo, no que diz respeito à dita imigração invisível, conheço entre aspas, um dos primeiros trabalhos que eu estou recordado foi de Albano Cordeiros, data já dos anos 1990, salvo erro da minha parte.
Sim, é verdade. Nós partimos precisamente dessa discussão e desse conceito do paratonnerre maghrébin, que foi proposto pelo Albano Cordeiro, que faleceu recentemente e a quem nós até dedicamos a obra, que foi, enfim, uma personagem crucial, vamos dizer, nos estudos na área da sociologia sobre a imigração portuguesa em França, que coloca precisamente essa questão, até que ponto a imigração portuguesa que chega nos anos 60 e 70, ao mesmo tempo que chegam estes fluxos migratórios do Norte da África e da África subsaariana, nomeadamente mesmo no contexto pós-colonial francês, até que ponto a migração portuguesa acaba por ficar de alguma forma ao abrigo de uma certa, vamos dizer, proteção, no sentido de ser entendida como católica, ou ser percebida como branca, etc., por oposição a estas populações, acaba por ser vista como uma espécie de população modelo, etc., o que a invisibiliza nesse sentido, por não ser considerada problemática ou não estar associada a problemas de integração na sociedade francesa. E, portanto, nós questionamos um bocadinho esta, não é o questionar, mas tentamos trazer esta discussão sobre o que é esta invisibilidade. Por um lado, como é que ela acontece, e por outro lado, até que ponto é que podemos dizer que é invisível, na realidade, uma população que tem uma presença quantitativa bastante expressiva. E, portanto, como é que podemos olhar para isto? Como é que podemos olhar para isto do ponto de vista histórico? Aliás, o livro começa precisamente com o artigo do Vítor Pereira, que, aliás, a primeira parte do livro é sobre a questão da representação da imigração portuguesa. Começa com esse artigo que tenta mostrar como é que, de facto, a imigração portuguesa é vista em França, mesmo no tempo anterior aos anos 60 e 70, e depois passa para essa discussão a partir dos meios de comunicação social também. Mas, portanto, o livro pretende trazer esta discussão de como, de que forma é que os migrantes portugueses também têm sido vistos e percebidos na sociedade francesa, mas também como é que eles próprios, né, se percebem, como é que eles próprios se veem, como é que eles próprios se representam. E tudo isto ao abrigo destas discussões, que são discussões também políticas e dos modelos de integração da sociedade francesa, e como é que os migrantes portugueses também devem e podem ser vistos também por comparação ou em diálogo com as outras populações migrantes presentes em França.
Sónia Ferreira, precisamente relativamente a essa dita integração, fácil ou não fácil, daí talvez o facto das ciências sociais francesas não se interessarem pela imigração portuguesa, mas a imigração portuguesa foi alvo de racismo, de xenofobia, de violências. Um certo número de portugueses foram assassinados por racistas. É como isso nunca tivesse existido, de uma certa forma?
Sim, exato. Há toda essa questão, quando falamos nessa invisibilidade no sentido da minoria modelo ou da boa integração, acabamos por ocultar muitas coisas, nomeadamente toda a discriminação, né, todos os processos de discriminação aos quais as populações portuguesas foram também sujeitas, e isso fica invisibilizado. E não deveria estar invisibilizado, seria importante estudá-lo, não só pelo que aconteceu junto das populações migrantes portuguesas, mas também junto de outras populações, num quadro, de facto, de discriminação racial que se estendia a várias populações migrantes e que acaba também, de alguma forma, por exemplo, invisibilizar o próprio papel político que a migração portuguesa também teve em França, nomeadamente o seu envolvimento em movimentos sociais, nomeadamente movimentos sociais antirracistas, como foi o caso da participação portuguesa nas marchas da Convergência de Cadre Vancadre. E, portanto, há uma ideia de migrante português como apolitizado, como um migrante que não se envolve na vida política, etc., quando isso não é totalmente verdade. E, portanto, não só nessa geração das marchas antirracistas, mas também já nos anos 60 e 70, com a presença dos exilados políticos em França, e, portanto, há também o envolvimento em lutas operárias, em sindicatos, etc., e, portanto, há uma grande invisibilização também sobre essa participação política e cívica dos portugueses, alguma no combate, precisamente, às questões da discriminação racial, entre outras, né, em todo tipo de discriminações.
Sónia Ferreira, eu gostava que abordássemos agora dois aspectos do seu artigo. Lembro o título, Les médias portugais lusophones ethnogenèse de la portugalité, entre guillemets, en France. Relativamente ao seu artigo, comecemos sobretudo nos anos 1960-1970, o papel central da imprensa, nomeadamente a imprensa militante também.
Assim, na realidade, essas primeiras análises sobre a imprensa militante em França, que são feitas pela Marie-Christine Volovitch Tavares e pela Cristina Clímaco, depois há um texto mais recente do Vítor Pereira que atualiza de alguma forma o recenseamento que é feito dessas publicações, e é um pouco extraordinário quando nós pensamos que naquele pequeno espaço de tempo há tantos títulos, não é? Estamos a falar de mais de 100 títulos, nem todos tinham um caráter politizado, ou seja, mas a maior parte eram. Alguns já estavam ligados, de facto, a algumas organizações. Há também a questão da presença portuguesa, não é? Ligada mais aos movimentos católicos, mas é verdade, é que parece um pouco incrível como é que houve uma proliferação tão grande de títulos nesse período. Mas ele também, isso também revela a grande diversidade da presença em França de grupos que estavam ligados depois também em Portugal, a grupos políticos, não é? Específicos, a movimentos políticos específicos, e que depois em França, em alguns casos, vão associar a movimentos políticos franceses, que é o caso da Gauche Prolétarienne. Mas eu próprio, quando comecei a trabalhar sobre isto, fiquei bastante surpreendida com estes números, mas que são bastante interessantes para perceber algum dinamismo e alguma efervescência que se vivia nesse período.
Sónia Ferreira, vamos agora a outro período, os anos de 1970 a 1980, e aí entramos na paisagem radiofónica, e evidentemente a Rádio Alfa também está presente nessa paisagem.
Sim, a Rádio Alfa, enfim, que acaba por se tornar uma rádio, né, ainda hoje de referência para a população migrante em França, sim, que surge primeiro, né, tínhamos aquelas rádios, que o movimento, né, radiofónico também era bastante ativo e bastante diversificado, e que a partir de um determinado momento devido à legislação francesa no que diz respeito aos meios de comunicação social, têm que entrar num processo de legalização. Pronto, e aí começa a reduzir-se bastante este panorama radiofónico. E a Rádio Alfa tem uma história própria, aliás, eu não a estudei em profundidade, há outros colegas que o fizeram, mas é interessante como se passa, né, de rádios, num movimento mais de rádios comunitárias e depois, por motivos, enfim, seja de sobrevivência financeira, etc., que aliás não é apenas o que acontece com a Rádio Alfa, acontece com outros meios de comunicação social, acabam por se tornar aquilo que nós vemos hoje como privados, não é? E portanto têm um proprietário e passam a ter outro estatuto. No caso da Rádio Alfa também é interessante a forma como depois os próprios meios de comunicação social têm que se adaptar à contemporaneidade, ao digital, e portanto vai criando um conjunto de segmentos, né, que lhe permitem também atingir um público mais vasto, nomeadamente fora do próprio da própria França, né, e portanto lhes permite chegar até à própria diáspora portuguesa através de outros suportes tecnológicos.
A Sónia Ferreira, uma referência ainda ao seu artigo, tem a ver agora com a televisão e médias numéricos. É uma fase qualitativa que se acrescenta aqui que já existia ou substitui ao que existia?
Eu acho que isso é uma discussão complexa. Eu acho, acima de tudo, que por um lado talvez haja alguma complementaridade, porque a facilidade com que alguns meios já aí que nascem, não é? No seio do digital, vão conseguir, lá está, chegar a outros públicos e, nomeadamente, deixam de estar restringidos. Por exemplo, como o Arthur sabe melhor que eu, não é? Mas no caso da rádio havia uma série de imposições quando as rádios eram criadas, tinha a ver com os horários de funcionamento e com a potência das antenas permitiam chegar a regiões bastante limitadas, não é? Por exemplo, Paris e arredores, outras zonas de França, etc. E o digital vem um pouco revolucionar isso, porque de repente algumas dessas barreiras deixam de existir. Mas não estou completamente de acordo que haja uma oposição. O que me parece que aconteceu é que muitos dos meios de comunicação social que nós poderíamos catalogar como mais tradicionais, aliás, como é o caso da Rádio Alfa, acabaram por se adaptar também e, portanto, começam, em muitos casos, a funcionar em suportes diversificados, ou seja, por um lado garantem um público, que era um público que estava habituado a formas de relacionamento enquanto ouvintes específicas e, portanto, mesmo com o tipo de aparelhos, etc., e talvez outros tipos de públicos que mais facilmente aderem às novas tecnologias e que aproveitam as potencialidades que elas tenham. Mas o que me parece é que há uma adaptação dos meios, vamos dizer assim, de comunicação social mais tradicionais, e depois, claro, que vão surgindo aquilo que se fala de uma certa democratização no acesso aos meios de produção, o que permite que pessoas que não teriam poder económico e para ter tecnologias, que era o que era preciso antigamente, né, pesadas e caras para produzir, passam a fazê-lo de forma mais fácil. Mas parece-me que vão ocupar também muitas vezes, vamos dizer assim, talvez em alguns casos determinados nichos, não é? De espectadores, de interesse, há uma segmentação também, depois também dos interesses e dos públicos.
Palavras da Sónia Ferreira, antropóloga, a propósito do livro Les Portugais en France, une immigration visible, ponto de interrogação, 20e e 21e siècle, publié par Le Cavalier Bleu Edition. Estamos a chegar ao final desta primeira hora e começamos hoje a fazer a história do rock português, que passam por nomes que marcaram, mas infelizmente já não estão entre nós. Hoje, João Aguardela, que faleceu no dia 18 de janeiro de 2009, cantor, autor, compositor, é conhecido por fazer parte das bandas Sitiados, Linha da Frente, Megafone ou ainda a Naifa, e precisamente a vida de marinheiro com Sitiados. Tchau, tchau, João Guardela.
ser marinheiro, mesmo sabendo enjoar. E assim foi navegando pelos lados do Soureiro, mas dentro de uma garrafa nunca mais se perde o pé. Esta vida de marinheiro, estando a jogo de mim, bar em bar, a quem procuro fama e fortuna, eu procuro naufragar. Telefonei para Tóquio só para te ouvir cantar, pensei que a tua voz me pudesse animar. Telefonei para Tóquio só para te ouvir cantar, pensei que a tua voz.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora deste domingo, 25 de janeiro, lembro, emissão com difusão da noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Já tínhamos falado nisto algumas semanas antes, a data já existe, vai ser no próximo sábado, dia 31 de janeiro. Hermano Sanches Ruivo, muito boa tarde e obrigado por estar em direto na Rádio Alfa.
Boa tarde.
Ora, conselheiro de Paris, conselheiro do 14º arrondissement, e precisamente homenagem da Ville de Paris, da Municipalidade Parisiense, a Mário Soares. As razões são mais do que soubejam, como diria o outro, não?
Sim, considerar que Mário Soares faz parte da história da cidade de Paris é muito evidente, não será forçosamente o único a ser homenageado este ano, porque por definição Paris tem essa capacidade de atrair uma série de personalidades, porque uma série de realidades. Agora, muitas dessas pessoas estão ligadas também a lutas que são lutas universais, não é apenas ligadas a um país, mas de facto participam de uma realidade muito maior. E Mário Soares, que faleceu em 2017, viveu em Paris esses anos, esses meses antes de regressar a Portugal em 1974.
Entre 1970 e 1974, salvo erro da minha parte.
Exatamente, e embora tivesse tido dois, três endereços, há um que é mais consequente, que é o 17 Boulevard Garibaldi, em Paris.
Era um estúdio muito pequenininho, onde, aliás, quando fazia reuniões, andavam uns em cima dos outros, passa a expressão.
Exatamente, e era também a explicação que dava Maria Barroso. Dizer, nós mal cabíamos nesse espaço, embora o Mário Soares também lá estivesse muitas vezes mais sozinho. Mas sim, são as realidades do exílio, são as realidades não tanto de estudante, porque já era professor, de resto ele foi professor em várias universidades aqui em França, penso essencialmente, por exemplo, em Rennes e aqui, obviamente, na Sorbonne, em Paris.
Na cidade de Vincennes, na altura ainda estava em Vincennes, ele passou
por
Vincennes.
Passou por Vincennes e pela Sorbonne, mas relembro que também foi professor na Universidade de Rennes, e é por isso que há uma cátedra com o nome dele em Rennes. Mas bom, isso para explicar que o exílio, e é de Paris que vai à Alemanha, quando da fundação também do Partido Socialista Português, é de Paris que ele ativa, ele e outros, porque é de forma mais consequente, e é aqui também que ele cruza não só realidades francesas e internacionais, mas também portuguesas. Lembro que Álvaro Cunhal viveu pequeno tempo em Paris, mas sobretudo em Montreuil, uhum. Mas também em Saint-Denis. E, portanto, essas diferentes realidades fazem com que uma cidade como Paris, em momentos mais específicos, gostaríamos de o ter feito logo nos 50 anos de 1974, acaba por ser nos 50 anos de 1976, uhum. O que fica completamente dentro da homenagem, porque Portugal também festeja este ano os 50 anos, sobre as primeiras eleições republicanas para o Presidente da República, para as...
Não, Presidente da República, não, pois, foi para a Constituinte e a Presidência da República, o primeiro eleito foi em 1976, precisamente, e foi Ramalho Eanes. Ora, relativamente a esta homenagem, bom, houve evidentemente uma exposição de motivos, para já relativamente a denominação, je cite, hein, Jardin Mário Soares attribué à Espace Vert, situé au 50 rue de Pixé Récourt, Paris 20, e depois une expo, délibération, projet de délibération expose des motifs, que foram aprovados os dois projetos, que a posição de uma plaque comemorativa en hommage à Marie Soage, au 17 Boulevard Garibaldi, à Paris 15e. Ora, vamos começar pelo jardim, na medida em que, segundo informações que eu pude obter, pois bem, a inauguração vai decorrer no próximo sábado, às 9h45.
Exatamente, e digo que nessa altura em que muitos de nós estamos a refletir sobre o que é a República e como é que nós temos que defender a República, eu espero que mulheres e homens da direita republicana, da esquerda republicana, possam também vir até esse jardim, em Paris 20, e porquê? Porque é uma maneira também de relembrar que o que nós vivemos agora, as realidades, a democracia da qual podemos usufruir, também participou com lutas de pessoas, de personalidades, em tempos em que, de facto, não havia essa mesma democracia. Escolhemos um jardim, mas aqui é um bocado a anedota. De facto, a primeira ideia foi, sobretudo, essa placa junto do prédio do 17 Boulevard Garibaldi. Uhum. Agora, Arthur, quando nós dizemos como é que Portugal está, como é que os portugueses estão em França, estão integrados, têm uma série de realidades a favor, isso é verdade, mas continuamos com algumas dificuldades, e eu devo dizer, e não é um segredo que se deva guardar para a eternidade, mas foi uma grande luta para conseguir que houvesse essa placa em frente ao prédio, porque as pessoas, algumas das pessoas dos prédios não queriam a placa, e não é por ser Mário Soares ou por ser português, é porque também tem uma espécie de visão sobre a utilização do próprio prédio. Agora, nós podemos colocar a pergunta, será que isso é realmente ainda possível, de ter assim tanta dificuldade em prestar homenagem a quem lutou e quem participou de uma luta que é, mais uma vez, uma luta universal. Portanto, a placa foi a primeira ideia. A segunda ideia do jardim também tem a ver com várias realidades, porque primeiro um jardim tem outra função, tem uma ligação também inclusive aos mais jovens e coloca-se a pergunta mais facilmente, muitas vezes quando se está sentado no jardim, mas porquê este nome do que exatamente quando se passa a correr ou rapidamente em frente a uma placa. O 20e tem a ver também com várias coisas, a Ação Memória que é uma associação muito importante dessas associações portuguesas ou franco-portuguesas em Paris, porque tem aquele trabalho ligado não só ao obviamente à história do que foi a Revolução, do que foram os anos antes da Revolução, essa imigração, esse exílio de uma série de personalidades. Alargou o trabalho também simplesmente a prestar homenagem a uma série de realidades, por exemplo, a resistência portuguesa durante a Segunda Guerra Mundial. Também teve um trabalho à volta da Aristide Sousa Mendes, a quem prestámos homenagem aqui também em Paris. Portanto, é uma espécie de conjunto, e o jardim fazia sentido para uma personalidade como Mário Soares.
Irmã Soares, há que referir que ainda estou recenseado, estou relembrado, desculpa, quando foi inaugurado o Jardim Amália Rodrigues, que não é muito longe, aliás, desta história. Ora, no que diz respeito à placa, há uma hora exata onde a cerimónia vai decorrer ou não?
Não, porque tem muito a ver com a questão da agenda. A família, o João e Isabel Soares vão estar tão bem presentes. Há uma série de personalidades também que foram convidados. Eu até teria a ousadia de aproveitar a vinda do Presidente da República de Cabo Verde para também o convidar. Eu sei que ele vai estar, vamos nós recebê-lo na Câmara, mas vai estar com a comunidade cabo-verdiana depois no sábado da parte da tarde. Sim, é importante que essa hora, esse dia 31, e às 10 horas haja realmente uma presença portuguesa mais consequente, porque ou vão um ou vão outro, o jardim tem claramente mais espaço, mas eu acho que é importante prestar homenagem. De resto, há outra luta, e passo a falta de humildade, no entanto, mas quero também relembrar todo o trabalho que os eleitos franceses de origem portuguesa ou portuguesa nas câmaras têm tido, alguns até podiam ter mais, mas para justamente prestar homenagem a essas realidades portuguesas. E aqui em Paris houve muito trabalho feito. Amália Rodrigues foi, em muitos aspectos, a primeira, seguiu logo a Vieira da Silva com uma placa no atelier e agora até tem uma rua, mas todos esses nomes, Amadeu Sousa Cardoso, agora a Cesária Évora para os nossos amigos cabo-verdianos, mas Agostinho Bessa Luís na biblioteca, agora essa placa Mário Soares, é uma maneira de relembrar que Paris é grande por causa da diversidade, mas Lisboa também é grande por causa da diversidade, e o Porto é grande por causa da diversidade, e não esquecer quem é que participou da nossa história comum. Há uma placa que ainda não está decidida, e para mim continua uma luta, mesmo para depois das eleições, porque muito dificilmente uma vez será feita antes. Essa placa vai prestar homenagem aos 50 anos da chegada maciça dos portugueses de França. Eu cheguei na Gare do Estoril, tinha 5 anos, foi em 1971, em novembro de 1971, meu pai já tinha chegado em 1970, e nós queremos uma placa, nós exigimos uma placa na Gare do Estoril para prestar homenagem, porque era a estação onde chegavam os portugueses, é o Sud Express, é também depois de onde sai o comboio da Liberdade, por exemplo, que faz regressar uma série de exilados, dos quais Mário Soares a Portugal. Essa placa é importantíssima, e eu espero que seja ainda possível fazê-la este ano, mas pronto, participa, para responder à tua pergunta, dessa absoluta necessidade de fazer com que todos os habitantes de uma cidade compreendam qual é a história da cidade e quem é que participou da história da cidade, e portanto porque é que é preciso ainda mais compreender essa ideia de nós trabalharmos e vivemos todos em conjunto. Eu fico contente pelos parisienses compreenderem que viveram aqui uma série de personalidades que participaram da história da Europa. E é o caso de Mário Soares, em muitos aspectos, não só
mas,
da Europa.
Mesmo Garibaldi. Garibaldi, italiano, mas foi alguém também que está ligado à Revolução Francesa, e não só. E para isso, bom, a história finalmente dava muito para falar. Hermano Sanches, muito obrigado. Ora, lembro, ou vou ler o texto que vai estar na placa. Mário Soares, de 1924 a 2017, homme d'État portugais, vécu ici de 1970 à 1974, éminent acteur de la Révolution des œillets, il a œuvré toute sa vie pour défendre la démocratie dans son pays.
Exatamente, e é mesmo a tradução que será apresentada em português, e eu acho que é importante, e mais uma vez eu só posso convidar as pessoas a estarem presentes. Não é uma festa, nem é um comício político, é prestar homenagem a uma personalidade portuguesa, e é bom que os portugueses tenham mais visibilidade na altura em que muitos estão de resto a negociar também uma presença maior. Eu acho que é realmente fundamental. E deixa-me também dizer outra coisa,
porque rapidamente,
estamos a falar de Garibaldi, não, mas hoje são os anos do António Ramalhianos, tu falaste do António Ramalhianos, primeiro presidente eleito depois da Revolução. Feliz aniversário, António Ramalhianos.
Muito obrigado. E agora vamos falar de um tema que, bom, precisamente, bom, mas enfim, disso falaremos com o jornalista e comentador na RTP, Miguel Szymanski, que tem a ver com o resultado das eleições, primeira volta das eleições legislativas. Muito obrigado, Hermano Sanches.
Obrigado, eu.
Obrigado. E a este propósito, bom, eu não sei que se Mário Soares, se ele estivesse vivo, o que é que ele pensava ou deixaria de pensar daquilo que se está a passar em Portugal. Mas enfim, não vamos fazer agora político-ficção, não se trata longe disso, na medida em que, com efeito, um líder da extrema-direita racista e xenófoba acedeu à segunda volta das eleições presidenciais. Essa segunda volta decorre no dia 8 de janeiro, no que diz respeito às comunidades portuguesas. Novamente, o voto é presencial nos consulados ou nas embaixadas e vai decorrer em dois dias, sábado dia 7 e domingo dia 8. E quem se apresenta a esta segunda volta, António José Seguro, apoiado pelo PS e igualmente André Ventura do Chega. Connosco, Miguel Szymanski, peço desculpa, Miguel, antes de mais, boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Olá, boa tarde, obrigado pelo convite para falarmos sobre as eleições.
Ora, eu peguei, bom, não é tendencioso, não leva mal, amiga Szymanski, precisamente num texto que publicou no Facebook no dia 19, é como quem diz, no dia logo a seguir à primeira volta das eleições, e o mínimo que se pode dizer é que o Miguel espera, anda à espera de muita coisa.
Bem, eu vou confessar que não me lembro exatamente do texto que escrevi, mas sei o que pensei sobre os resultados das eleições.
Então, avancemos com isso. Eu vou começar a ler. Um fascista da segunda geração com um discurso da pacotilha chega à segunda volta das eleições presidenciais. Depois nos esperam, só vou ler o primeiro, espero que este não afastamento, que isto tem a ver depois com o conteúdo do texto, é claro e inequívoco do candidato pós-fascista, em um termo que significa o mesmo com ou sem o prefixo, seja uma falha temporária de avaliação ou de comunicação. Isto tem a ver, evidentemente, com o facto de, entre outros, Luís Marques Mendes dizer eu não apelo ao voto, finalmente mudou de opinião, enquanto que o Primeiro-Ministro e o PSD dizem nós não apelamos a votar por ninguém na segunda volta. Isto tem a ver, portanto, está à espera que haja qualquer coisa que se modifique, mas para já, análise, precisamente, que faz do resultado da primeira volta.
É verdade, foi essa a primeira reação, foi estranhar muito que as pessoas atualmente no governo e responsáveis pela governação não tenham inequivocamente apelado ao voto no candidato que defende a Constituição, que defende a democracia, que defende as liberdades civis e os direitos em geral, porque os direitos em geral, de acordo com o artigo 13º da Constituição, que diz que as pessoas são todas iguais perante a lei. Esse apelo ao voto devia ser inequívoco. Do outro lado, está um candidato que representa um movimento, que aliás não é só português, é internacional. Basta olharmos para os Estados Unidos ou olharmos para a Alemanha e vemos o que é que Donald Trump defende ou o que é que a Alice Weidel do AfD na Alemanha defendem para um projeto de país.
Ou aqui mesmo, peço desculpa, ou aqui mesmo com a Marine Le Pen.
Ou por exemplo, o que se passa também em França, porque este movimento é um movimento internacional. Está perfeitamente plasmado, no caso dos Estados Unidos, na Agenda 2025, que pretende concentrar poderes numa só figura, e para isso, que é uma figura providencial, como nós já tivemos em Portugal durante quase 40 anos, e fazendo as pessoas esquecer que os regimes ditatoriais e as autocracias têm sempre mais corrupção do que os regimes democráticos. Os regimes democráticos têm muitos problemas. A democracia portuguesa tem um problema de nepotismo, de benefícios ligados a partidos, de corrupção, etc. Esses problemas têm que ser resolvidos no quadro democrático, não fazendo aquilo que pretendem os André Venturas deste mundo, que é a extrema-direita portuguesa atual, que é apelar a personagens providenciais e apelar ao regresso de três Salazares. Estão a mitificar, estão a fazer as pessoas, estão a enganar as pessoas, porque não existem os inimigos que eles criam. Nem nos Estados Unidos, nem em Portugal, a imigração é um problema, nem a criminalidade é um problema. E são questões que são criadas e que são desmentidas pelas estatísticas. Mas os fatos não convencem. Quando se cria medo na cabeça das pessoas, quando se cria imagens de terror na cabeça das pessoas, muitas pessoas vão atrás porque se deixam levar pelas emoções, por uma certa nostalgia, que são memórias distorcidas do que terá sido o passado, passado esse que muitas vezes nem sequer viveram, como o próprio André Ventura, que é candidato presidencial, diz. Ele diz que nasceu depois do 25 de Abril, e quem, como eu, viveu antes do 25 de Abril, sabe perfeitamente dos riscos e da corrupção terrível que havia, das detenções arbitrárias, das polícias políticas, enfim, tudo aquilo que estamos a ver de forma incipiente a surgir agora nos Estados Unidos.
Sim, mas, amiga Sismaki, eu estou lembrado de um facto. Nas eleições, durante a campanha eleitoral para as eleições legislativas de 2025, André Ventura foi entrevistado o dobro de vezes do que Luís Montenegro. Até que ponto, finalmente, as redes sociais, bom, aí já as conhecemos, mas mesmo a dita comunicação social portuguesa não está a ajudar este movimento todo que denuncia o Miguel?
Não está a ajudar de um todo. Por um lado, só porque falou nas redes sociais, e para dizer muito rapidamente, as redes sociais estão, sabe-se, perfeitamente manipuladas. As redes sociais, os Facebooks e os X dos senhores Zuckerberg e Elon Musk recusam a fornecer os seus algoritmos à União Europeia, recusam, além de não pagarem impostos na União Europeia, que ainda por cima agora confirmado pelo acordo que a senhora Ursula von der Leyen fez com Donald Trump, que as empresas norte-americanas não têm que pagar pela exportação dos seus produtos, incluindo estes serviços. Acordo esse que ficou em suspenso com os excessos de Donald Trump, mas as redes sociais manipulam os algoritmos de forma, por exemplo, a, na Alemanha, terem dado uma audiência de 200 milhões, além da Alemanha, em todo o mundo, deram uma audiência de 200 milhões à líder do AfD, à senhora Alice Weidel, porque o senhor Elon Musk gosta da agenda da extrema-direita fascista e por isso deu-lhe esta plateia. No caso da comunicação social portuguesa, pois eu vou em abono dos meus colegas jornalistas que estão em cargos de direção nas várias televisões e que essas mesmas televisões que deram o dobro do tempo de antena ao candidato da extrema-direita, em abono e na dúvida vou dizer que os meus colegas se calhar vão atrás daquilo que rende mais audiências e que não há uma agenda por trás. Eu temo que em parte existe uma agenda por trás. Há grupos de comunicação social que estão ligados à grande indústria, a certas grandes indústrias extremamente poluentes, que têm que fazer grandes investimentos para reduzir os danos que causam ao país, por exemplo, através de eucaliptos e incêndios. São as grandes empresas que processam e que essas, ao mesmo tempo, controlam televisões e estão interessadas em avançar com aquela agenda que é também, mais uma vez, a dos Estados Unidos, que é desregulamentar, deslegislar, retirar as sanções, deixar de obrigar as empresas a serem não poluentes. Portanto, pode haver em grande parte uma agenda que puxa por esses candidatos. Por outro lado, há a ideia de que as pessoas querem ouvir aquilo que é bizarro, exaltado e que apela a emoções muito fortes, e aí claramente os candidatos de extrema-direita gerem essa manipulação emocional recorrendo a mentiras e distorcendo factos, mas oferecem mais audiências, e é isso que alguns colegas jornalistas procuram quando lhes dão tempo de antena.
Sim, bom, eu não esqueço um deputado que roubava malas nos aeroportos, não esqueço um deputado igualmente que foi acusado de pedofilia, por aí fora. Podemos continuar a lista, não é? De pessoas que foram acusadas, foram condenadas e hoje continuam no Parlamento, a começar por um senhor que está ligado aos atentados de extrema-direita logo a seguir ao 25 de Abril, que provocou mortes. Mas, Miguel Cisernas, que queiramos ou não, talvez haja uma ignorância da parte de um certo povo, mas já lá vão duas gerações depois do 25 de Abril. Bom, 1974, estamos em 2026, já vão 52 anos. Porque, no meio disso tudo, há condições materiais, que queiramos ou não, há problemas a nível da habitação, problemas a nível da saúde, há problemas a nível da educação, há uma precariedade, há salários que não chegam para comer e para ter um teto. Não há condições materiais também que levam as pessoas a dizer, bom, já tentámos todos, vamos experimentar este.
Bem, é verdade que esses problemas todos existem, e existem, enfim, delinquentes em todos os partidos, pelo que nós vemos com maior incidência nestas novas bancadas, claramente, com mais incidência nessas bancadas, mas existem em todos os partidos, e isso, e nestes casos, tem de se aplicar a lei. E quanto aos problemas referidos, desde a habitação, à educação, à saúde, são problemas que têm soluções muito complexas, e essa é a questão. As pessoas não têm, em regra geral, interesse nem formação política, ou muitas pessoas que votam esses partidos de extrema-direita, não têm preparação e formação política para querer refletir sobre as complexas soluções para esses problemas. Esses problemas passam muito pelo sistema económico em que vivemos, pelo sistema financeiro em que vivemos, pelo modelo fiscal que temos, e tudo isso é muito complexo para as pessoas, que preferem claramente as soluções muito fáceis, que são apresentadas em fórmulas muito simples e que dizem: não, o nosso problema são os imigrantes, são as comunidades ciganas, e o nosso problema são os partidos dos últimos 50 anos que são todos corruptos. As pessoas ouvem estas três frases, e esta é uma fórmula que parece ter um substrato de verdade, não tem, mas sobretudo que é simples e que é fácil de seguir, e com um tom de voz exaltado convence, como se fossem pessoas a repetir um slogan ou claques de futebol, a repetir uma ideia primitiva, uma ideia francamente primitiva. Isto não abona em favor de uma parte da população que de facto ficou para trás na educação. É verdade que ficou para trás, e que sofre com rendas altas, e que sofre com problemas de acesso à saúde. Mas os problemas têm de ser resolvidos num quadro de respeito pelos direitos de todos. E é isso exatamente que as extremas-direitas fascistas e as extremas-direitas radicais, sejam elas neofascistas, criptocomunistas ou simplesmente conservadoras, desrespeitantes dos direitos humanos, não fazem. Não respeitam os direitos individuais e querem impor sistemas que nós sabemos, porque os observamos em todo o mundo neste momento e observamos recuando na história, o que fazem é concentrar o poder numa pessoa e estabelecer um regime repressivo que é muito pior, é muito pior a emenda que eles propõem do que o soneto em que nós vivemos.
Ora, a questão dos imigrantes em Portugal, Miguel Cisames, Portugal tem metade da população que emigrou. Não há praticamente família nenhuma portuguesa que não tenha alguém que ou emigrou ou esteve emigrado e por aí fora. Não há, que eu saiba, em Portugal. De maneira que um país que tem setores que estão dependentes de trabalhadores emigrantes. A pesca, por exemplo, a colha de fruta, bom, podia continuar assim a setores inteiros, a ajuda à terceira idade e por aí afora, de maneira que um país que sentiu a imigração ser obrigado a partir, não compreende que finalmente há outros que vão agora a Portugal para trabalhar, buscar pão e buscar um teto, por simplesmente, para viver.
Bem, aparentemente não só não compreende, como nem sequer avalia corretamente, porque há de facto imigrantes que vêm para Portugal muito perigosos. São aqueles, regra geral, que compram os seus vistos gold para serem imigrantes que pagam a sua entrada com investimentos, basta de meio milhão para entrarem. E aí sabemos, são muitos criminosos que vêm de África, que vêm dos Estados Unidos, que vêm da América do Sul,
da Rússia,
que vêm do leste europeu, não só da Rússia, e essas são as pessoas que conseguem desmantelar mecanismos democráticos que são necessários para uma economia funcionar. São esses que criam estruturas paralelas que retiram os médicos do Sistema Nacional de Saúde para hospitais privados que podem pagar mais para atenderem só pessoas privilegiadas que pagaram a sua entrada. As pessoas que andam a trabalhar nos serviços, os imigrantes de baixos rendimentos, que trabalham nas estufas em condições que poucos ou nenhum portugueses estão dispostos a fazer, que trabalham em áreas de serviços que poucos ou nenhum portugueses estão dispostos a fazer e por salários que não querem fazer, não são esses que são o risco. Mas as extremas direitas, estes candidatos, este candidato André Ventura, que se propõe ser presidente, ataca sempre estas minorias frágeis. Nunca as pessoas que estão a financiar as suas campanhas e que estão todos ligados a interesses corporativos que representam muitas vezes escritórios de imigrantes privilegiados que pagaram para estar no país e que querem impor um regime que concentre poderes em alguém que lhes diminua os impostos e não em alguém que tente melhorar o sistema deficiente em que vivemos. Que a democracia portuguesa é altamente deficiente, passado 50 anos, mas fez uma trajetória de grandes melhorias em muitas áreas e é essa trajetória que se tem que prosseguir e não voltar atrás 52 anos.
Não, é melhor não, porque bom, havia um senhor que dizia a primeira vez uma tragédia, a segunda vez uma comédia, um barbudo, foi o Karl Marx, para não o nomear, mas Miguel Szymanski é escritor. Bom, eu não peço ao inspetor que venha agora resolver este caso, não? Ainda que isso pode dar um bom livro policial, um bom romance policial isso, mas precisamente como jornalista, quer dizer, os jornalistas têm à sua frente uma tarefa enorme, porque trata-se de esclarecer, entre aspas, não é? Para já os jornalistas têm que estar os próprios esclarecidos daquilo que se passa. Mas hoje, ser jornalista em Portugal, aqui, bom, para este mundo fora, não é nada fácil, uma tarefa ingrata hoje, mas mais do que nunca necessária.
É mais do que nunca necessário, exatamente. Eu lamento que nós tenhamos em muitos aspectos, sobretudo no que toca à comunicação social, afastámos-nos de um modelo de liberdade editorial nas redações e por parte dos jornalistas. O que nós temos em Portugal cada vez mais, eu diria que as raras exceções são ainda as empresas de capitais públicos, porque têm organismos de supervisão que refletem as várias sensibilidades que estão no Parlamento. São essas que podem influir sobre a comunicação social. O que nós temos para além disso são 3-4 grupos económicos com agendas políticas perfeitamente delineadas que controlam a comunicação social. São essas que muitas vezes põem os senhores André Ventura e companhia a ter mais tempo de antena, porque isso lhes traz proveitos. Seja através de receitas de publicidade, porque têm mais audiências, seja através de uma agenda política que esperam poder impor de mais baixas de impostos para as empresas, de menos combate à corrupção, das quais estas grandes empresas vivem muitas vezes, e que por isso, controlando a comunicação social, não estão interessadas em que os jornalistas sejam mais do que meros assalariados que cumprem ordens, não um código deontológico jornalístico, mas ordens dos acionistas e dos administradores das empresas de comunicação social. E esse é um problema muito grande que Portugal tem, é um problema que também se vê nos Estados Unidos, e é preciso por isso ter uma comunicação social que seja independente. Esta é uma das áreas-chave em que a democracia portuguesa tem que melhorar muito e tem que dar passos nesse sentido, para não serem o senhor A, B ou C que veio dos investimentos na pasta do papel ou no turismo ou que veio do imobiliário, que compra televisões e jornais e faz aquilo que o senhor Berlusconi começou a fazer em Itália e que levou a que sejam agora neofascistas no governo, que faz aquilo que começou a fazer nos Estados Unidos com as empresas como a Fox e o Sr. Murdoch e outros grandes investidores que apostaram em personagens como Donald Trump. E o caminho vem, por um lado, das redes sociais, por outro lado, da comunicação social, de abrir espaço de carreira política para estes políticos de extrema-direita, que tem de ser travado melhorando o sistema em que vivemos e não varrendo-o da mesa para impor sistemas que sabemos como funcionam. Funcionam pela repressão e pelos privilégios de meia dúzia de grandes fortunas.
Sim, amiga, mas que eu ainda estou acordado de brancas, digo bem brancas, entre outros no Diário de Lisboa, porque a censura era o lápis azul, como se chamava antigamente, e aliás há uma exposição importantíssima, penso que na Biblioteca Nacional, sobre os livros proibidos durante o fascismo. Vale a pena refletir nisso. Miguel Szymanski, muito obrigado. Bom, vamos lá ver aqui o que vai passar, então, no dia 8 de fevereiro.
Estou muito otimista, acho que as pessoas começam a perceber que há valores que temos que defender, que são os valores de conquistas da pós-revolução, de depois de 40 anos de ditadura, e não é seguramente um regresso àquilo de que saímos, que foi um pesadelo.
Com efeito. Bom, e agora cito um escritor de livros infantis: ler é liberdade, é importante isso. E sobretudo, leiam jornais, se fizerem favor, e comprem os livros nas livrarias, não passem pelas plataformas. Muito obrigado, Miguel, e até uma próxima, então.
Um bom domingo a todos os ouvintes.
Muito obrigado.
Obrigado, bom dia.
E agora vamos ao teatro.
A saudade. C'est curieux, je l'ai autant pour le Portugal quand je suis en France que pour la France quand je suis ici, au Portugal. À la fois, je me sens à ma place et aujourd'hui, j'aimerais tellement être ailleurs. C'est Joanne, ma petite sœur, qui veut vendre notre maison familiale. Il a fallu qu'on prenne une décision, c'est vrai qu'on y vient peu depuis plusieurs années. J'avais oublié comme il fait chaud ici au mois d'août.
Tu sais, c'est pas que je m'en fiche qu'on vende cette maison. C'est juste que c'est pas pareil pour moi.
La vieille la mâche qu'on dit, chez la hiche que qu'on est, les y avait nous.
Allez, Saoud.
Saoud. Personne ne vous laisse décider. Clara était toujours occupée, et puis toi tu disais rien. Aucun soutien à la famille, aucun.
Eh bien oui, je l'admets. J'admets parce que tu n'as jamais compris. Tu ne comprends pas que ça me ferait du mal de se séparer de cette maison.
J'ai parlé avec maman. Demain, je vais appeler mon père. Je veux faire un pas vers lui.
So, de sorriso, t'encanta.
Est-ce que tu crois que derrière l'horizon, nos montagnes, il y a notre vie qui nous attend?
En partie, je crois, oui.
J'ai rien à t'offrir ici.
Je suis pour du jour qui va naître.
De tout voyage, même du plus petit.
Je reviens comme d'un sommeil rempli de rêves.
Soldats d'ici et là-bas, texte d'Isabelle Ruibel, mise en scène d'Alexis Dessault, avec Isabelle Ruibel, Deninger Duchamp et Simon Quintana. Eh bien, cette pièce continue son périple, et cette fois-ci, elle va aller, on va être le 31 janvier à partir de 20h30, dans une ville symbolique pour la communauté portugaise. Je vais parler de Champigny-sur-Marne, ça sera au théâtre Gérard Philippe. Dan, bonjour.
Bonjour Arthur.
Alors, je pense que pour toi, bon, Champigny, représenter la pièce à Champigny, tu dois te dire, ah, là, on touche vraiment quelque chose d'essentiel.
Ah bah, je pense, oui. Déjà, personnellement, c'est mes terres natales, on va dire, c'est là où je suis né. Et puis, par rapport à l'histoire même de la pièce, je pense que, c'est pas je pense, c'est sûr, elle aura forcément une résonance dans la ville qui a vu un des plus grands bidonvilles de la région parisienne. Et donc, de rappeler plein de choses, bonnes et moins bonnes, évidemment, mais en tout cas, elle aura une résonance bien particulière auprès de nos parents et nos grands-parents. Mmh.
Alors, la pièce, il faut dire que la première représentation, c'était en province, je crois.
C'était à Dieppe, c'était une sortie de résidence. Et puis, avant de monter sur Paris, on a participé au festival novembre en Normandie. Et la première fois qu'elle est venue sur Paris, c'était donc au théâtre Clavel pour deux représentations qui ont affiché complet, forcément tout de suite. Et grâce à ces représentations, c'est de là où on a pu et grâce aussi aux sponsors. Et je remercie encore une fois les entrepreneurs portugais qui nous ont donné un coup de main à faire connaître cette pièce en Avignon. C'est à partir de là qu'on a commencé à jouer un peu partout en France, quoi.
Alors, une question, bon, elle est peut-être bête, mais enfin, je pense que, bon, vous êtes des acteurs que, bon, vous êtes à l'aise avec le public. À la fin de la représentation, est-ce qu'il y a un débat? Bon, je pense que vous allez le prévoir à Champigny-sur-Marne, tout au moins. Est-ce que si vous avez réalisé des débats, comment ça s'est... qu'est-ce que les gens ont posé comme question? Quel a été le dialogue?
Pour être sincère, je ne sais pas si à Champigny on va pouvoir le faire, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on le fait, c'est très intéressant. Les questions, elles sont diverses. Elles sont relatives par rapport au métier d'artiste. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est en fait même s'il n'y a pas de bord de scène, comme on dit dans le métier. C'est les gens qui viennent nous voir, justement, de cette première génération qui sont venus et qui, bien des fois, avec les yeux mouillés, pas forcément en train de pleurer, mais qui nous témoignent du fait que cette histoire leur a rappelé la leur. Et bien souvent, la phrase dite, c'est ce que vous avez joué, c'est mon histoire. Et c'est ça qui est le plus touchant. C'est-à-dire qu'on a plus franchement un grand chose à dire, c'est pratiquement le public qui parle, quoi.
Alors, Dan, bon, on a déjà plusieurs fois parlé justement du contenu de la pièce, parce que bon, je divise, mais c'est tellement embrigné les unes dans les autres. Si on mettait l'héritage de la maison, vendre la maison, c'est une excuse, c'est tout ce qui se passe autour, parce que l'héritage, c'est autre chose. L'héritage, c'est ses racines, c'est plusieurs générations qui ont un regard différent par rapport aux choses. C'est un petit peu tout ça.
Exactement, et c'est ce qui fait que cette pièce devient universelle, parce que évidemment, comme j'arrête pas de le dire, c'est une histoire qui se passe au Portugal, puisque c'est une famille qui est en partie vit ici en France, une partie au Luxembourg, mais bon, tout ça c'est des prétextes, et en fait c'est véritablement une histoire de famille, de racines, de savoir d'où on vient pour savoir qui on est et où on va. Et les fois où on l'a joué, par exemple, je me souviens, par exemple au Théâtre Clavel, à la sortie, c'était aussi bien des gens italiens, d'origine italienne, je veux dire, ou même maghrébine. Ça remue plein de choses, quoi. La vente d'une maison familiale, ça touche énormément de gens, forcément, quand la première génération s'en va. Parce que malheureusement c'est la vie. Eh ben il y a cette identité qu'on doit garder, ou pour les plus jeunes découvrir, parce que il y a la deuxième génération dont je fais partie aussi bien dans la pièce que réellement, mais il y a aussi cette troisième génération qui est peut-être pour certains un peu coupée et avec leur histoire, et qui sont obligés par la force des choses de découvrir d'où ils viennent, quoi.
Donc, je peux résumer, finalement, la pièce pose, entre autres, la question de la transmission identitaire. Quand je parle identitaire, bon, entendons-nous bien, c'est savoir, bon, quelles sont nos racines, et ça, parce que, justement, de transmettre ça génération en génération, bon, là, je pense au 25 avril, il y a déjà deux générations qui sont nées depuis, mais la troisième est déjà là. Et donc, c'est important, cette transmission, finalement, c'est de la mémoire, c'est de la vie vécue par les anciens.
Et je pense qu'à l'heure actuelle, je vais pas faire de politique, mais parce que c'est pas à moi de le faire, mais en tout cas ça a forcément une résonance aujourd'hui, puisque il faut apprendre non seulement des bouquins, comme tu l'as dit il y a quelques minutes avec l'interview d'avant, faut lire dans les bouquins, mais aussi par le vécu de ces anciens, quoi. C'est des grands-parents, les parents, voilà. Genre, on a forcément des choses à retenir et à comprendre, quoi.
Alors, on est très sérieux, on est sérieux, on parle, bon. Mais dans la pièce, on chante, on rit aussi pas mal.
Eh oui, évidemment, parce que le fait d'avoir deux nationalités, ou en tout cas deux cultures, sans parler de nationalité, mais d'avoir deux cultures, ça porte des fois à quiproquo, les mots qui existent dans les deux langues, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Et c'est ce qu'apporte aussi notre troisième compère, Simon Quintana, qui apporte beaucoup d'humour, même dans sa façon d'être, quoi. Donc c'est pas seulement que, comme tu dis, c'est pas seulement que sérieux. Il y a des moments de rire, mais c'est la vie, tout simplement. C'est la vie, et la vie, c'est des hauts, des bas, et des moments pénibles et des moments un petit peu plus heureux, quoi. Ouais.
Alors, j'ai cité texte Isabelle Ribel, mise en scène Alexis Dussault. En scène, Isabelle Ribel, Danny Gerduchens, Simon Quintana. Bon, mais il y en a d'autres qui travaillent dans l'ombre, non?
Exactement, exactement. En général, on a Cédric Le Seine qui s'occupe de la vidéo et du son. Nous avons Solène qui s'occupe des lumières, parce que évidemment, il y en a pratiquement pour tous les sens. On avait même réfléchi à un moment donné de mettre des parfums d'eucalyptus pour qu'on se trouve réellement au Portugal. Mais bon, on n'a pas poussé le bouchon jusqu'à là. Mais il y a des photos de Gérard Bloncourt, qui forcément vont toucher énormément de gens qui sont projetés à un moment bien précis. Enfin, je voudrais peut-être pas trop en dire non plus, parce que sinon, voilà. Mais en tout cas, c'est il y en a pour tous les sens, quoi. Il y a de la musique, il y a de la chanson, des images, des vidéos, et voilà. Et puis nous sur scène, quoi. Et encore une fois, à Champigny, ça sera avec une émotion bien bien particulière, quoi. Donc je sais qu'il y a encore quelques places. Je sais que peut-être que le grand public portugais n'a peut-être pas l'habitude d'aller au théâtre, mais encore une fois, c'est une pièce qui est tout à fait abordable. Il n'y a pas besoin d'être un fidèle au théâtre pour pouvoir y comprendre. Enfin, je veux dire, on peut y aller sans problème. Je pense que tout le monde peut y aller. D'ailleurs, même sans être portugais, hein, parce que toute la pièce est en français. Oui, tout à fait, oui. Et d'emmener nos amis. Enfin, voilà. Et puis, donc voilà. Et je ne sais pas quand on rejouera sur la région parisienne. Donc, profitez-en. Ouais,
une bonne occasion, comme on dit. Donc, Soldat d'ici là-bas, le samedi, donc samedi prochain, 31 janvier, Théâtre Gérard Philippe à Champigny-sur-Marne, 20h30. Et d'ailleurs, cette histoire concerne tout le monde, et quelles que soient nos origines. Ah, il ne faut pas oublier, sans oublier, qu'il n'y a pas de Français de souche. Je m'excuse de dire ça, mais façon, c'est une réalité, cher ami. Les Français...
Il y a ça, mais on peut aussi avoir les gens qui habitent en province et qui déménagent pour vivre leur quotidien dans les grandes métropoles, que ce soit à Paris, Lyon, Bordeaux, enfin, je sais pas trop quoi. Et forcément, ils vivent aussi exactement la même chose. Il y a cette sorte d'émigration aussi dans le propre pays.
Voilà. On avait les Bretons de Paris, on a aussi les Portugais de Paris, mais enfin, c'est une autre affaire. Dan, merci et bon vent, et à samedi prochain à Champigny-sur-Marne. Merci.
Et un grand bonjour aussi à tous les auditeurs. Bisous.
Merci. E obrigado igualmente ao Manuel Alexandre, que me acompanhou mais uma vez durante essas 2 horas. Bem-ajam, e nós esperamos voltar aqui no dia 1 de fevereiro.
E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar...
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.